Terrien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
J'imagine que dans notre industrie, vous avez peut-être déjà pensé, planifié un jour de changer de vocation. Des fois, on se dit, tant qu'à faire du US, je vais peut-être aller dans un emploi du secteur minier et ça va peut-être être un emploi où je vais peut-être développer plus, avoir plus de, disons, de capacité peut-être à développer ma carrière, que ça soit dans des engins de chantier. Puis il y a différents types de métiers, là, tu sais. Il y a tellement d'équipements dans une mine, puis il y a tellement de métiers différents que des fois on sait peut-être pas par où commencer, mais on a découvert avec vous des gens qui vont pouvoir nous en parler. C'est le comité sectoriel minier. On va parler avec Pascal Gobeil, qui est conseillère en communication et chargée de projet et aussi promotion des métiers, et Guy Auger, qui est directeur de projet. Mesdames, messieurs, bienvenue sur Truck Stop Québec.
Bonjour.
Pour commencer, comment est-ce qu'on pourrait définir le comité sectoriel minier? Qu'est-ce que vous faites et comment vous pourrez aider peut-être des entreprises ou des personnes à vivre du secteur minier?
Ben d'abord, il y a plusieurs comités sectoriels de main-d'œuvre au Québec, il y en a plus d'une vingtaine. Et notre but principal, ça va être de faire affaire avec les écoles de formation minière dans notre cas et les entreprises minières. Dans le fond, on collabore avec eux pour promouvoir les métiers du secteur minier et faire en sorte que, bien sûr, il y a des gens qui étudient dans le secteur minier et qui, par la suite, soient employés dans le secteur minier.
OK. Puis, dans le fond, vous pouvez publiciser ou en tout cas mettre des offres d'emploi ici et là aussi par la suite, ou vous aider les entreprises à recruter du personnel? C'est-tu un peu ça aussi?
En fait, on fait un peu des deux. Quand on parle de recrutement, nous, c'est pas directement, parce qu'on est un organisme à but non lucratif et qu'on n'est pas une entreprise minière en soi. Mais effectivement, on a une page d'offres d'emploi où est-ce que les emplois des entreprises minières vont être mis sur cette page. Donc, en soi, effectivement, on aide au recrutement, mais pas nécessairement de façon directe. Et quand on aide aussi au recrutement, c'est au niveau des questions, parce que le secteur minier, c'est pas un secteur nécessairement toujours connu. Donc, les gens vont nous appeler ou vont aller sur notre site Internet qui est explorelesmines.com pour avoir de l'information sur comment justement procéder pour aller dans le secteur minier.
Est-ce qu'il y a une pénurie, tout comme dans notre domaine du camionnage, est-ce qu'il y a une pénurie de personnel dans le secteur minier?
Oui, en fait, selon l'estimation de besoin de main-d'œuvre, qui est aussi un document là, qui est disponible sur notre site Internet, d'ici 2028, il va y avoir pas loin de 19 000 emplois à pourvoir dans le secteur minier.
C'est incroyable de penser que même dans nos mines, on peine à trouver toujours des gens pour faire l'emploi ou en tout cas pour travailler dans ce secteur-là.
Je pourrais rajouter quelque chose.
Allez-y.
Quand on parle du mot pénurie, on pourrait peut-être dire aussi main-d'œuvre spécialisée, parce que c'est important de rajouter ça. C'est pas, tu sais, t'arrives pas, là, pas de diplôme, puis tu dis, je m'en vais travailler dans le Nord, puis je vais faire 150 000. Tu sais, faut quand même avoir la formation appropriée.
OK. Le secteur des mines, parce que puisque on a besoin de gens qualifiés, on sait que il y a quelques années, c'était peut-être un milieu d'hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé en 2025? Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui postulent à des postes clés pour le secteur minier?
Oui, c'est sûr que c'est encore majoritairement masculin, on ne le cachera pas, mais on fait beaucoup d'efforts dans le secteur minier pour qu'il y ait des femmes, mais aussi dans des métiers qu'on pourrait dire non traditionnels. Donc, tu sais, on fait vraiment l'effort là, autant au niveau des entreprises minières que nous, notre côté, avec par exemple Place aux femmes, qui fait en sorte qu'on veut vraiment amener les femmes dans le secteur minier. Et on a aussi un guide de carrière là, où est-ce qu'il répertorie 50 métiers disponibles dans le secteur minier, où est-ce que il y a des entrevues ou des métiers que c'est des femmes qui sont représentées dans ce cahier. qui est aussi disponible sur notre site Internet, explorelesmines.com.
OK. Fait que les femmes sont bienvenues dans ce secteur-là, puis on y va par qualification, dans le fond. Vous êtes qualifié pour un emploi, on va vous prendre, puis on va vous trouver ben des heures à faire. Ça représente quoi, en moyenne, disons, une semaine type pour quelqu'un qui travaille dans le secteur minier? J'ai souvent entendu du séjour on, séjour off. Il y en a qui c'était 14 jours on, séjour off. Sais-tu, y a-tu plusieurs horaires où généralement, ben, on fait ça avec un transport aérien?
Pour répondre à la question, ça va vraiment dépendre de la personne, où est-ce qu'elle est, dans quelle entreprise, qu'est-ce qu'elle fait. Parce que, par exemple, vous avez parlé, effectivement, on appelle ça du fly-in, fly-out. Ça veut dire, généralement, ça va être du 14-14. Si je donne un exemple de Fermont, par exemple, les gens, mettons, je vais prendre moi. Moi, j'habite à Québec, puis demain matin, il faut que j'aille travailler à la mine de Fermont. Fait, je vais aller par avion, bien sûr, ça va être par avion.
Okay.
Après ça, je vais aller travailler 14 jours là-bas, ça va être 10-12 heures environ par jour.
Okay.
Et je suis logée, nourrie, donc tout est inclus. Fait que je vais là-bas, je travaille et après ça, je reviens pendant 14 jours chez moi à Québec.
Okay.
Fait que ça, c'est ce qu'on appelle du fly-in, fly-out. Mais c'est pas toutes les entreprises minières qui offrent ce style-là.
Okay.
Donc, il y a aussi d'autres possibilités. Par exemple, si on va dans Abitibi-Témiscamingue, dans le fond, il y en a plusieurs qui habitent à côté du site minier. Donc, les horaires vont être différents. Ça va être pas nécessairement du 14-14 non plus.
Okay.
C'est pour ça que je vous disais, ça dépend un peu de la situation de la personne. Elle va être engagée où, comment. Donc, ça dépend de plusieurs aspects.
OK. C'est quoi les métiers qui sont les plus en demande? Si je vous disais, bon, en ce moment même, vous auriez besoin de plusieurs, quel type de métier vous avez besoin actuellement?
Ben, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, là, mais j'ai parlé de l'estimation de besoin de main-d'œuvre. Ben, en fait, c'est un document que le CSMO mine, c'est une abréviation du Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines, produit et sur notre site Internet et qui dit justement les métiers les plus en demande dans le secteur minier.
Okay.
Présentement, c'est environ 10 métiers qui est le plus en demande dans toute la province du Québec. Je vais donner par exemple mécanicien de machinerie lourde, opérateur de machinerie lourde. Et si on veut aller avec un petit peu plus d'études, un petit peu plus spécialisé, il va y avoir aussi, par exemple, géologue. Il y a aussi au niveau des ingénieurs, là, que ça va être quand même beaucoup en demande au niveau des études, par exemple.
OK. Mettons que c'est la première fois que, bon, mettons que j'ai réussi mon test, tout ça, je suis embauché par une minière quelconque. C'est quoi la première chose qu'on découvre quand on arrive dans le secteur minier? Est-ce que des fois, c'est de voir l'espèce de profondeur d'une espèce de carrière qu'on a été chercher différents métaux? Est-ce que c'est quoi l'affaire qui nous frappe le plus quand on arrive dans ce secteur-là?
Je vous dirais, ça serait le tout ce qui est, c'est tout géant. En fait, tout est géant dans le secteur minier. Mettons, je vais prendre moi un exemple qui est 5 et 2. Je ne fais même pas la moitié d'une roue d'un 240 tonnes, par exemple.
C'est sûr. Mais c'est vrai, puis c'est une belle analogie que vous dites là. Puis en même temps, ben c'est comme un carré de sable géant. Hein?
Ben c'est sûr qu'effectivement, là, les mines à ciel ouvert, c'est extrêmement grand, mais aussi souterrain, parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de désinformations au niveau du secteur minier, puis les gens, ils ont encore tendance à penser que c'est des petits tunnels, mais non, au niveau des véhicules qui vont dans les souterrains, il y a de la climatisation, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment impressionnant et c'est géant, on pourrait dire aussi. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Guy?
Non? C'est correct. Dans le fond, on s'adresse à un public qui est camionneur. Est-ce qu'il y a de la place pour des camionneurs? Puis je comprends que ce ne sera pas du transport, là, mais de conduire, comme tu disais, là, des 240 tonnes ou quelque chose comme ça, là, est-ce qu'il y a de la place pour quelqu'un qui est habitué de conduire de longues périodes et tout ça? Puis que, tu sais, est-ce qu'on pourrait le former? Est-ce qu'il pourrait devenir conducteur d'engin de chantier?
Bien, en fait, ça va Pour répondre à la question, je vais peut-être un peu dériver, là, mais tout d'abord, ils pourraient rester dans le secteur de du transport puis travailler pour le secteur minier. Dans le fond, les entreprises minières, souvent, ils vont engager ce qu'on appelle des sous-contractants. C'est-à-dire, ça va être des entreprises de transport, parce que le transport est très important dans le secteur minier. Okay. Un coup qu'on extrait le minéraux, on faut le transporter dans les usines, par exemple, de transformation. Et les usines de transformation ne sont pas nécessairement au même lieu que le site minier. Donc, au niveau du transport, c'est quand même très important. Fait que s'ils veulent rester dans le domaine du transport, mais pour travailler dans le secteur minier, c'est possible. Après ça, s'ils veulent vraiment changer pour aller directement dans le secteur minier, ça va vraiment dépendre de la personne. Par exemple, si ça fait 20 ans qu'elle est là, la personne elle a des expériences transférables. Elle connaît le domaine, par exemple, mécanicien, elle a fait plusieurs véhicules. Donc, oui, ça va être possible de rentrer dans le secteur minier peut-être un peu plus rapidement que quelqu'un qui arrive il y a 20 ans puis il veut rentrer dans le secteur minier. Ça va être peut-être un petit peu plus compliqué à ce niveau-là parce que ça prend quand même minimalement un DEP, c'est-à-dire un diplôme d'études professionnelles pour rentrer dans le secteur minier, mais aussi, ça va être au niveau des qualifications. Nous, on va plus parler de, mettons, par exemple, mécanicien de machinerie lourde plutôt que véhicule lourd routier, par exemple.
OK. Tu as parlé de DEP. Ça se donne où, les DEP? Est-ce que c'est vraiment en dehors des secteurs miniers, c'est-à-dire le nord du Québec ou l'Abitibi ou d'autres régions? Est-ce que ça se donne dans les grands centres ou s'il faut que je suive une formation proche du secteur minier?
En fait, encore là, ça va dépendre du métier. Parce que comme j'expliquais avec le guide de carrière tout à l'heure, il y a pas loin de 50 métiers disponibles dans le secteur minier. Donc, ça va vraiment dépendre du métier qu'il veut faire, la personne. Okay. C'est sûr que plus c'est niché ou spécialisé du secteur minier, plus ça va être effectivement proche de la mine.
Okay.
Je peux nommer, par exemple, le CRP de Val-d'Or qui est vraiment à côté des mines.
Oui.
Ça, c'est une école quand même très spécialisée au niveau de la formation minière, par exemple.
Okay.
Mais après ça, mécanicien, mettons, de machinerie lourde, ça peut être dit autrement. Ça pourrait être, par exemple, engin de chantier, véhicule lourd, par exemple. Ça va se donner un peu plus partout au Québec que, comme je disais, peut-être un domaine un peu plus spécialisé qui va être, par exemple, mineur sous terre.
OK.
C'est vraiment niché secteur minier.
Puis pour rajouter à ce que Pascal dit, par exemple, mécanicien de machinerie lourde, là, il y a vraiment une grosse demande maintenant dans le secteur minier, puis c'est des métiers qu'on peut faire là, à Montréal, Québec, un peu partout, là, dans toutes les commissions scolaires offrent ce programme-là dans les régions.
Fait que ça, après ça, il reste rien qu'à faire application, tout ça, sans connaître les salaires, parce qu'ils doivent varier peut-être d'une entreprise à l'autre. Mais on gagne bien sa vie, généralement, dans les mines. Moi, les gens que je connais qui travaillent dans le secteur minier, là, c'est correct, il y a des heures à faire, là, mais ils sont pas pauvres, si je peux m'exprimer ainsi. Là.
Effectivement, en fait, c'est une moyenne de 80 000 à 140 000 par année. C'est vrai que le spectre est large, là, mais c'est parce que ça va dépendre effectivement de l'entreprise minière, mais aussi s'il est sous-contractant, il y a des différences entre les deux. Il travaille pour quelle mine, quel type de mine aussi. Oui. Des fois, il y a une différence entre une mine souterraine et à ciel ouvert. Donc, après ça, il y en a qui sont syndiqués, pas syndiqués. Donc, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. Mais en général, effectivement, de mes souvenirs, sont encore au-dessus de la moyenne générale canadienne de ce que les gens gagnent par an.
Oui, effectivement.
Je voudrais ajouter quelque chose, une anecdote. Si vous connaissez du monde qui travaille comme mineur sous terre,
oui.
Il y a toujours la notion du boni de production. Tu peux faire un bon salaire horaire, mais juste avec le boni, vous pouvez doubler votre salaire. Là. C'est important. Quand vous parlez de boni à des gens qui travaillent sous terre, là, plus tu es proche de l'or, plus tu vas avoir du boni.
OK. Si on récolte beaucoup, il y a un boni qui vient avec ça. Là.
C'est ça. Puis il faut toujours que tu travailles en équipe. Puis les gens veulent pas que tu nuis dans leur boni. Ça fait que ça prend du boni pour tout le monde.
Ben c'est ça. Ça implique les gens à travailler ensemble puis de former une équipe puis dire bon ben on y va puis on fort là tu sais puis on s'occupe de faire beaucoup de rendement. Je pense que c'est un bon moyen de faire participer tout le monde en équipe, tout ça. Il y a une série qui a passé à Canal D, là, qui était du secteur minier, secteur de Fermont aussi. Je sais pas si vous l'avez vu, mais est-ce que ça représente assez bien, disons, la vie de personnes travaillant dans les mines?
Personnellement, je n'ai pas vu l'entièreté de cette émission-là, mais mon collègue, oui. Et okay. Il me confirme que effectivement, ça représente quand même bien le secteur minier.
Oui, c'est bien fait là, quand même, là, tu sais, mais c'est sûr que Fermont, on parle beaucoup de mines à ciel ouvert.
Oui.
C'est que il y a les deux aspects qui sont complètement différents, mines souterraines, mines à ciel ouvert. Là. Les deux sont fascinants autant l'un que comme l'autre, là, mais c'est différent.
C'est-tu plus, Guy, le fait qu'il y a des régions où on va faire plus de mines à ciel ouvert versus peut-être l'Abitibi où ça va être des tunnels qu'on va creuser. Y a-tu des régions où c'est plus type tunnel que d'autres types ciel ouvert?
Ben, en fait, l'exploitation d'une mine se décide toujours par la forme du gisement.
Si okay.
c'est beaucoup plus en profondeur, ça va être une mine à ciel souterraine.
Okay.
Tandis que si c'est un gisement qui est très étendu, mais peu profond, reste quand même assez profond, là, mais ça va souvent être une mine à ciel ouvert. C'est des mines de fer souterraines, on voit pas ça. Là.
Okay.
C'est des gros gisements étendus sur plusieurs kilomètres, là, puis c'est pas très profond. Donc, c'est pour ça que c'est de la grosse machinerie aussi.
Okay.
C'est 400 tonnes pour sortir du fer parce que c'est du volume.
Oui.
On rentre dans des trains qu'on amène à des bateaux, à des usines de bouletage. Tandis que si on parle d'or, par exemple, il y a une mine en Abitibi, la Ronde, hein, quelle profondeur, Pascal, c'est la plus profonde de Québec, c'est sûr,
oui.
Là, puis même c'est rendu à 3 km et plus là, de profond.
Quand même. Ouais. Permettez-moi de vous poser cette question-là, là, mais mettons qu'on travaille sur un quart de travail aujourd'hui, puis ça termine, mettons, je sais pas, à 18 heures. C'est purement affectif, mais on fait quoi? Est-ce qu'il y a de l'activité sociale le soir? Est-ce qu'il se passe quelque chose le soir? Est-ce qu'on prévoit des activités pour les personnes qui travaillent dans le secteur minier? Ou on a, dans le fond, notre chambre, puis on peut écouter la TV, on peut, tu sais. C'est quoi l'après-travail? Est-ce qu'il y a de l'activité?
Oui, en fait, j'aime beaucoup dire souvent qu'on appelle ça un peu pratiquement des mini-villes, dans le sens que c'est vraiment tout construit pour que la personne se sente bien quand elle va travailler durant, par exemple, 14 jours.
Okay.
Donc, il y a des salles de spectacle, il y a des arénas ou des patinoires, par exemple.
Wow.
Donc, vraiment, oui, des éléments, là, plusieurs éléments pour que les gens fassent quand même du social, qu'on pourrait dire,
oui.
après leur corps de travail. Donc oui, là, il y a aussi des grandes salles de cafétéria. Il y a vraiment beaucoup de choses là pour qu'ils se sentent bien là quand même quand ils vont travailler là-bas.
Ben oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des histoires du genre où je sais pas, quelqu'un habitait Montréal, il habitait Québec, il habitait peu importe au sud de la province, puis ils ont tellement aimé la région, peut-être par les habitants, peut-être par le type de travail, peut-être aussi juste pour dire bon ben c'est correct de prendre l'avion, mais j'aimerais peut-être habiter. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déménagés près des mines et qui habitent là parce qu'ils sont tombés en amour avec une région ou avec le travail qu'ils font?
Oui, tout à fait. En plus, qu'est-ce qui est avantageux aussi, souvent, les entreprises vont offrir aussi des primes de déménagement. Donc, c'est sûr que s'il y a une possibilité qu'ils déménagent proche du lieu de la mine, oui, effectivement, c'est déjà arrivé. En fait, moi, je fais un peu partout au Québec là, parce okay. que je suis dans la promotion des métiers. Donc, je vais faire des journées carrière, je vais faire des présentations devant des groupes, dont dans des centres de formation professionnelle. Puis ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des jeunes qui venaient justement de Val-d'Or, par exemple, okay. ou de Baie-James, puis qui essayaient d'insister ses amis à venir déménager là-bas parce que c'est un endroit fantastique. Et j'essayais de l'encourager aussi, là, c'est de l'aider justement à promouvoir ça, là, que c'est possible là, de déménager proche du lieu de la mine.
OK.
Je peux donner un exemple complémentaire avec Pascal. On a déjà eu un programme au CFMO, les migrateurs miniers, qui c'était des jeunes qu'on aidait à placer. Là. On a eu beaucoup de jeunes de Montréal, partout, là, qui sont déménagés en Abitibi pour aller se placer dans les mines avec ça. Puis tu as des régions qui sont comme naturelles aussi connectées avec les régions minières, comme par exemple Mont-Laurier Gatineau là avec l'Abitibi. Et les gens qui vont étudier souvent en mécanique de machinerie lourde à Mont-Laurier, il y en a une bonne partie qui vont migrer vers l'Abitibi pour travailler dans les mines. C'est un exemple.
Oui, effectivement. Puis ça permet peut-être des fois d'être plus présent à son domicile. Puis je dénigre pas le fly-in, fly-out. Mais il y a des gens pour qui... pour X raisons, il aimerait ça se rapprocher de la job, puis c'est correct aussi. Puis des fois, on rencontre des gens dans notre vie, puis tout ça, puis on dit, je vais faire un bout de ma vie peut-être dans cette région-là, puis pourquoi pas, là, tu sais. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des camionneurs qui vous écoutent aujourd'hui et qui ont peut-être un petit intérêt, ou en tout cas commencent à développer de l'intérêt pour le secteur minier? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces gens-là?
En fait, ça va beaucoup dépendre de eux-mêmes. Nous, on veut pas nécessairement déraciner les gens, qui les obliger. C'est sûr que on va être super contents s'ils viennent dans le secteur minier. Mais après ça, ça reste leur choix, les pour et contre. Mais il y a aussi tout l'aspect, comme je disais, sous-contractant versus entreprise minière. Ça va vraiment dépendre de leur choix à eux. Ce qu'ils veulent faire, mais c'est sûr que il y a de la place dans le secteur minier. Comme je disais tantôt, c'est pas loin du 9000 emplois à pourvoir d'ici 2028. Donc, il y a de la place. Puis souvent, les entreprises minières vont essayer de aussi d'arranger des choses avec les personnes, tu sais, c'est au niveau des qualifications, par exemple. Donc, il y a beaucoup... c'est sûr que, en fait, la première étape, ça serait quand même d'aller regarder notre site Internet, parce qu'il y en a qui savent pas c'est quoi une mine.
Oui.
Il y en a qui savent pas c'est quoi un minéraux. Donc, il faut quand même commencer par la base. C'est quoi l'industrie minière? Qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce que ça implique? Donc, notre site Internet qui explique justement tout ça avec exploreslesmines.com, mais il y a aussi le guide de carrière. Le guide de carrière que je vous ai nommé à plusieurs reprises,
oui,
répertorie 50 métiers disponibles du secteur minier, dont par exemple mécanicien machinerie lourde. Donc, ça va vraiment être, c'est comme un conseiller en orientation, mais en version papier, okay, ou en ligne, dépendamment comment vous voulez le cahier. Donc, il est disponible en anglais et en français en plus. Donc, il y a aussi, pour pallier avec ça, des capsules carrières aussi. Fait que c'est des gens qui travaillent dans le milieu minier et qui ont fait des vidéos pour montrer c'est quoi leur travail de tous les jours. Donc, on a vraiment plusieurs choses et on est quand même là aussi pour répondre à toutes questions. Parce que ça arrive qu'il y a des questions qui viennent avec toutes les recherches qu'ils ont faites. Et ils peuvent nous appeler ou nous écrire, puis on est là pour ça.
Puis vous êtes en mesure, des fois, de les diriger vers soit une formation, vers des entreprises ou peut-être même par faire un petit peu sa formation pour devenir peut-être plus qualifié pour certains postes, là, tu sais. Puis quand vous disiez tantôt, la moyenne salariale, qui est une excellente moyenne salariale pour les gens, puis t'es logé, nourri, c'est correct. Tu vas faire peut-être quelques jours en ligne, mais dans le transport, on est habitué de faire ça, fait que ça pourrait être une belle avenue, puis peut-être même un bon débouché pour les camionneurs. En terminant, qu'est-ce qui ferait que je m'en irais travailler dans les mines? Est-ce qu'il y a un incitatif pour quelqu'un qui connaît moins, peu ou beaucoup les mines, de dire « je vais m'en aller dans ce secteur-là, je vais bien gagner ma vie, je vais développer un côté social, je vais travailler en équipe », parce que c'est important de le dire, si on est tout seul dans notre coin des mines, d'après moi, on doit avoir des emplois qui sont plus solitaires, mais il faudra travailler en équipe, puis il faudra faire les heures pour lesquelles on nous a demandé de participer, là.
Ben, en fait, vous avez pas mal dit tout ce qui est un peu pourquoi on irait dans le secteur minier.
Ouais.
Après ça, c'est sûr que ça reste au choix de la personne. Tu sais, c'est sûr que le secteur minier, c'est vraiment un beau secteur, mais c'est sûr que c'est un petit peu plus rigide peut-être pour certains que le camionnage, dans le sens que c'est plus, par exemple, 1-2-3-4, 1-2-3-4.
Ouais.
Et tandis qu'il y en a qui font un peu partout au Québec, ils font des 70 heures puis ils se promènent un peu partout. Ça va être un petit peu moins ça dans le secteur minier. Fait que, tu sais, peut-être pour les gens qui aiment la grande, grande liberté, ça sera peut-être un peu moins pour eux. Mais après ça... tout le monde est bienvenu dans le secteur minier, je dirais.
Oui, effectivement. Comment est-ce qu'on fait si on a des questions? Je comprends que vous avez un site qui s'appelle Explore les mines. Si on veut parler à quelqu'un, si on veut obtenir plus d'informations, je vous invite à le visiter, là, parce que je suis dessus présentement. Là, il y a une multitude d'informations. Mais si on voudrait jaser avec quelqu'un puis peut-être en apprendre plus, est-ce qu'il y a un moyen où on va sur la section « Nous joindre » sur le site « Explore les mines »
Mais c'est sûr qu'idéalement, ça va être fun effectivement nous joindre, mais sinon, on a une section aussi où est-ce que tous les membres de l'équipe avec leur courriel et téléphone, parce que ça peut dépendre de ce que la personne veut. Par exemple, mon collègue qui est avec moi aujourd'hui s'occupe beaucoup de la formation, par exemple, des formations coudes qu'on appelle, par exemple. Donc, si quelqu'un veut faire une formation coude, ben ça va être peut-être plus à mon collègue qu'on va devoir discuter qu'avec moi.
Pour dire coude, là, vous savez pas c'est quoi, là, mais c'est des nouvelles formations qui sont plus en vogue ces temps-ci, c'est faire soit un diplôme d'études professionnelles, mais en étant rémunéré.
Okay.
Donc les gens vont faire leur formation, vont être embauchés, ils vont faire leur stage en entreprise, tout en étant payés 25 $ de l'heure pendant leurs études.
Quand même, hein? Puis on a une job assurée après si on fait nécessairement, si on a les qualités requises pour ce métier-là, là, tu sais, on a une job.
On est bon, si on réussit, si on est bon, là, habituellement, ils vont vous garder.
Ouais, effectivement. Merci à vous deux, les amis. Pascal Gobeil, conseillère en communication chargée de projet et de la promotion des métiers, et Guy Auger, qui est directeur de projet aussi. Merci beaucoup de nous avoir informés sur les mines et tout ça. Puis vraiment, on en apprend beaucoup là-dessus. Puis il y a quelques similitudes avec notre industrie, mais il y a aussi des gens derrière tout ça. Puis on en a besoin de ces gens-là, hein.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, oui.
Merci à vous deux.
Merci.